Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut Pauline.
Bonjour.
Donc tu es connue sous le nom de lectrice à plein temps sur tes réseaux sociaux. Tu cumules environ 71 000 abonnés. Tu es présente sur Insta, TikTok, YouTube. Et donc tu as commencé les vidéos sur Instagram à 14 ans en 2017. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, totalement.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton parcours universitaire et aussi professionnel jusqu'à maintenant, ce que tu as appris, pourquoi tu t'es lancée dans telles études?
Je me suis inscrite une première fois, une première année en lettres édition médias audiovisuels à la Sorbonne, où j'ai été acceptée après le bac, mais ça m'a pas du tout plu. Ça correspondait pas du tout à mes attentes, puisque je m'attendais à connaître vraiment le monde de l'édition, et au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, on écrivait des pages Wikipédia, on faisait beaucoup de grec, de latin.
C'était théorique, quoi.
Ouais, et ça m'a pas du tout plu. Donc j'ai arrêté et ensuite je me suis du coup inscrite à Tours pour une deuxième première année en licence de lettres modernes, et là ça s'est très bien passé, et donc là je viens de terminer ma licence avec mon diplôme, etc. Et je suis acceptée en master en métier du livre et de l'édition à Angers en septembre.
On va reparler plus tard du coup de ton acceptation en master. Mmh. Là pour rester donc, du coup sur la licence de lettres, qu'est-ce que tu as trouvé différent par rapport à la Sorbonne et qu'est-ce qui t'a plus plu, qu'est-ce que tu as étudié?
Les livres, ils étaient beaucoup plus modernes, puisque à la Sorbonne j'ai étudié l'Énéide, l'Odyssée, vraiment des choses qui datait quand même assez, alors qu'en arrivant à Tours, en littérature comparée, on étudiait des œuvres beaucoup plus modernes, on étudiait des œuvres du 20e, du 19e, il me semble, en L1, c'était ça. Et même les profs, ils étaient beaucoup plus abordables, puisque à la Sorbonne, on était dans un amphi où on était 400. En TD, on était mélangé avec d'autres licences, du coup, on se retrouvait à 40 parfois par TD, alors qu'à Tours, on s'est retrouvé à 25, et après, à 15, et cette année, à 11, quoi. Donc, ça a aussi réduit, et c'était beaucoup moins anxiogène aussi d'être à Tours que d'être à Paris. En fait, même la ville de Paris m'a pas plu. Donc, c'est une bonne expérience que je garde en mémoire, mais Tours m'a beaucoup plus passionnée au niveau littéraire, au niveau amical, et même la ville étudiante est bien meilleure, quoi.
Donc, cette licence a vraiment convenu à tes attentes. Et, ouais. Aussi, est-ce que tu as eu une option à faire lors de ta licence?
Une option dans le sens...
Une option, est-ce que tu as eu des cours différents par rapport à d'autres...
Oui, à la Sorbonne j'avais culture et langage des médias,
okay.
Mais comme c'était suite au confinement, j'en avais que une semaine sur deux, et il y avait une semaine c'était en visio, et il fallait faire des choses en ligne, et du coup donc c'est là où on écrivait des pages Wikipédia, on voyait tout ce qui était fake news, comment est-ce que on pouvait se référencer à des bonnes sources sur internet, des choses comme ça. Sauf que je m'attendais pas du tout à ça. Et au deuxième semestre, on pouvait prendre équivalent à histoire du livre, mais les places étaient très limitées et j'ai pas été acceptée. Ce qui m'a aussi confortée dans l'idée de partir de la fac, quoi.
Oui.
Alors qu'à Tours, c'était littérature jeunesse et c'était le street art, tout ça, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus, et l'autre c'était FLE, et donc ça m'a vraiment beaucoup plus plu, et ensuite en L2 et L3 j'ai pris renforcement littéraire, et là je lisais des livres et c'était trop bien.
Et d'ailleurs j'y pense, est-ce que justement être redirigé vers une licence un peu plus générale, ça ne t'a pas un peu bloqué justement pour les masters en métier de l'édition et du livre plutôt qu'une licence plus spécialisée à la Sorbonne dans ça?
Alors je sais que mon dossier aurait été mis en avant surtout pour les universités de Paris, puisqu'il y a 3 masters métiers du livre et l'édition, je crois, qui se concentrent à Paris. Mais dans tous les cas, je voulais pas trop retourner dans cette ville. Et aussi, j'ai tout basé sur mon expérience professionnelle, puisque je travaille tous les samedis à la médiathèque de Tours Nord. J'ai mon Instagram quand même, où je me suis professionnalisée depuis que j'ai 18 ans. Je rencontre des auteurs, des maisons d'édition, je vais dans des classes, etc. Donc mon CV est assez fourni, j'ai aussi travaillé à la préfecture de Tours, j'ai fait de la vente en prêt-à-porter, etc. Et ma motivation est là, quoi. Et aussi j'ai essayé d'avoir des bonnes notes, Et donc je me suis dit, je tente quand même les masters, mais je pense que oui, ils prennent des masters plus spécifiques. Après, sur la plateforme mon master, c'était écrit d'avoir une licence de lettres modernes ou classiques pour être prise. Et après, c'était LEA, tous les trucs art, lettres et langues, quoi. Mais il n'y avait pas, par exemple, la licence de la Sorbonne. Donc bon, je ne sais pas trop si ça change quelque chose ou pas.
Oui, ça aurait pu convenir ou non. Après, c'est au bon gré des directeurs de master.
Oui.
Pour revenir vers la lecture, quel est ton premier souvenir marquant lié à cette dernière?
J'en ai tellement, mais moi je pense que le livre qui m'a le plus marqué quand j'étais petite, c'est le journal du petit Nicolas. Et c'était tout petit, c'était hyper rapide à lire et je me marrais, mais genre vraiment je rigolais, c'était absolument génial. Et là maintenant à la médiathèque, on les a et à chaque fois que je les vois, je suis contente de les voir parce que c'est encore des choses qui sont empruntées aujourd'hui alors que ça date d'il y a super longtemps. Mais je pense que c'est mon premier souvenir vraiment marquant puisque j'en parle encore aujourd'hui. Alors que bah, ça fait très très longtemps. Et l'autre chose marquante, c'est quand j'avais les magazines Disney Girl et que je devais attendre à chaque fois de recevoir mon magazine pour continuer le roman et la bande dessinée qu'il y avait à l'intérieur pour avoir chaque chapitre. Voilà, et c'est aussi, ça m'a rendu accro à la lecture. Et au final, bah, comme les magazines font ça aussi pour qu'on achète les bouquins,
Oui.
bah, j'ai acheté les bouquins à la suite pour vraiment pouvoir tout lire. Et puis c'est parti. Mais je lis depuis tellement longtemps que je sais pas trop. Parce qu'il y a des albums aussi. Par exemple, c'est L'Ogre de Smeralda, d'Esmeralda, c'est un truc comme ça, que j'ai adoré aussi quand j'étais petite. Enfin, tous les trucs genre Elmer, Arc-en-Ciel et tout, ça m'a trop marqué. Donc j'ai pas de souvenir marquant, mais elle a toujours été là, quoi.
C'est vraiment trop mignon, surtout qu'en plus, souvent, beaucoup de personnes ont tendance un peu à décrédibiliser certains supports de lecture, tout ça. Mais là, par exemple, tu as parlé du magazine Disney Girl, et c'est ça aussi ce qui t'a un peu perdu. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a ça
Oui.
en partie aussi qui a
Ouais,
joué,
ouais.
quoi.
Bah, les J'aime lire et tout ça, hein.
Oui.
Les Sciences et Vie Découverte. Enfin, et en fait, à chaque fois, ils mettent des livres dedans et pour faire la promotion, hein, mais aussi pour que nous, on puisse se plonger dedans. Et ça marche trop bien, en fait. Et les magazines, ça marche encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est les Julie qui sortent énormément à la bibliothèque et ça marche super bien. Et à l'intérieur, il y a des bandes dessinées qu'on peut retrouver aussi. Et c'est trop bien. Moi, j'aime trop les lire, en fait.
Et donc, comment t'es venue l'idée de te lancer dans la création de contenu sur d'abord Instagram?
Et ben je lisais et j'étais toute seule à lire dans mes potes au collège. J'ai beaucoup déménagé aussi, du coup ça a fait que j'avais pas forcément d'amis dans les nouveaux établissements où j'allais. Et donc je me replongeais dans mes romans. Et à un moment je me suis dit bon j'en ai marre de parler de mes romans à personne. Il doit bien exister une communauté littéraire sur les réseaux sociaux. Et donc j'avais Snapchat avant, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Et donc je me suis mise sur Instagram sous le nom de lectrice à plein temps. Ça m'est venu tout de suite, parce que je lisais tout le temps, donc je me suis dit allons-y. Et là j'ai découvert des comptes comme Muffins and Book, c'est Marie Replin. J'ai découvert aussi Le Souffle des mots avec Audrey, qui était à la fois sur YouTube et Instagram. J'ai découvert Nine Gorman sur YouTube. J'ai découvert la bouquinade qui est Emma, enfin voilà, et ça c'est des personnes à qui je peux parler aujourd'hui, qui me répondent à mes questions, avec qui je fais les soirées littéraires et tout ça. Mais avant, à 14 ans, j'imaginais jamais qu'un jour, celle sur qui j'avais pris exemple, bah, je la rencontrerais quoi. Mais ouais, je me suis lancée parce que personne lisait et que je voulais partager en fait ce qui me plaisait. Voilà.
Et au début, est-ce que ça a un peu coulé de source pour toi, ou tu as rencontré des difficultés, des critiques? Quand on est jeune, ça peut être compliqué parfois, ou ça prenait peut-être pas assez d'ampleur pour ça?
Ben, en fait, je l'ai dit à mes copines et tout que j'avais
Oui.
un compte. En fait, je l'ai dit assez rapidement et c'est devenu assez normal pour tout le monde que j'ai un compte sur lequel je parle de livres, puisque je pense que aussi la lecture c'est mieux vu que si je faisais un compte lifestyle, ça c'est sûr, hein. Mes parents, au départ, ils prenaient pas trop ça au sérieux, et au fur et à mesure, quand ils ont vu que je pouvais recevoir des services de presse ou des choses comme ça, ils se sont penchés dessus sérieusement. Enfin, ils m'ont accompagnée. Voilà, mon père il m'accompagnait pendant les salons, ma mère aujourd'hui elle m'aide encore à calculer tous les trucs pour l'URSSAF, pour les déclarations d'impôts, de revenus et tout ça. Enfin voilà, et puis même c'est eux aussi qui m'ont acheté mon matériel au départ, donc enfin tout mon appareil photo, mon ordinateur, ma caméra là je l'ai eue l'année dernière à Noël, mon téléphone à chaque fois aussi, c'est des participations de mes parents et de ma famille. Et mes amis, bon, en fait, c'est devenu naturel que je prenne en photo un roman quand on est en train de sortir dehors, ou que je leur demande de me prendre en photo avec. Donc, non, pas de moquerie. J'ai vraiment, enfin, Un jour, on m'a dit, c'est pas parce que t'as plein d'abonnés que tout le monde t'aime. Mais à part ça, c'est la seule remarque un peu méchante que j'ai pu recevoir. Et encore, ça m'a même pas touchée. Genre, ça tombe sous le sens, tu vois. Donc voilà. Après, si c'est les haters, mais j'en ai pas beaucoup, hein. Et puis quand ça arrive, c'est des vagues de haine qui sont assez violentes sur Twitter, surtout. Mais là, pour l'instant, ça va, hein. On croise les doigts pour que ça continue. Et puis, bah, juste, faut pas y prêter attention. Mais non, la communauté littéraire est sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une bonne communauté où les gens sont plutôt gentils. J'ai des bons contacts. Voilà. Après, il y a des problèmes, mais comme partout, quoi.
Oui. Et puis, comme tu dis, tout ce qui touche aux livres ou à des contenus un peu plus intellectuels, c'est toujours moins critiquable pour la plupart des gens que lifestyle ou les jeux vidéo, ouais. Des choses comme ça, quoi.
C'est ça. Même si parfois on me dit que je lis de la littérature jeunesse et young adulte, et du coup, c'est la culture du vide, quoi. Ouais. Mais ça, c'est surtout sur TikTok et c'est souvent les hommes, donc voilà.
En plus, souvent les hommes.
Bah ouais, c'est tout le temps, c'est vraiment le problème, hein.
Oui, et puis si tu parlais de classique, il dirait que t'es pas assez compétente pour en parler.
Exactement.
C'est toujours ça. Ensuite, ma prochaine question. Est-ce que tu as toujours du temps pour lire des livres que tu voulais lire, genre tes lectures personnelles, ou est-ce que c'est vraiment toujours conditionné au niveau de tes partenariats? Et en plus, ça, tu dois avoir tes lectures de fac aussi qui ont dû pas mal jouer dans ton temps personnel.
Oui, oui, oui. La Chartreuse de Parme. Mais alors j'arrive à lire tous mes livres de fac parce que je m'y prends en avance, je m'y prends l'été quand on a la liste en avance, et sinon je m'organise vraiment sur des week-ends ou des semaines où je me dis là je vais lire que ça et je vais prendre des notes, donc et puis toujours les études en priorité, hein, de toute façon. Pour les services de presse, si je suis pas rémunérée, j'ai pas d'obligation de les lire, et si je suis rémunérée, je le place dans mon emploi du temps. Mais du coup, ça fait que j'ai encore plein de temps pour mes lectures loisirs. Là, par exemple, j'ai emprunté Peau d'âme à la médiathèque, et donc c'est pas du tout un service de presse, mais juste une copine m'en a parlé, donc je le lis. J'ai encore le temps de lire des bandes dessinées, des mangas. Après, en fait, mes lectures plaisir sont devenues mes services de presse. Par exemple, Hunger Games, je l'ai lu, mais je l'aurais lu dans tous les cas, même si c'était pas un service de presse. Enfin, voilà, quoi. Donc je reçois les nouveautés de plusieurs maisons d'édition, et finalement c'est vraiment des nouveautés que je veux lire et que j'aurais sûrement acheté si j'avais pas l'opportunité de les recevoir. Et puis maintenant sinon je les emprunte à la bibliothèque, comme ça je ne dépense plus d'argent dans les livres et je gagne de la place parce que j'ai plus de place là, faut pousser les murs sinon.
Donc oui, au niveau du temps, tu peux gérer assez facilement les partenariats, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus.
Non, et puis j'ai signé dans une agence depuis le début de l'année, c'est Colette Talent. Et donc c'est Valérie, mon agente, avec sa stagiaire, qui gère aussi tous mes mails, demandes de partenariat, elles envoient mon kit média, etc. Ce que je faisais du coup avant toute seule, maintenant elles prennent ça en charge. Ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour lire. Et puis là, comme la fac s'est terminée assez tôt, tout l'été, finalement, je consacre beaucoup, beaucoup de temps à la lecture. Et voilà, et à la détente, parce que la lecture, c'est quand même aussi ma passion, donc j'aime faire ça. Et je considère pas ça forcément comme du travail, parfois, même si la lecture, l'heure de lecture est comptée dans les partenariats rémunérés, moi, j'ai l'impression juste de m'amuser et de kiffer ce que je fais, quoi.
Ah oui, l'heure de lecture peut être comptée dans les partenariats.
Ouais, et
je sais pas du tout.
On calcule le nombre de pages par rapport à combien de pages je peux lire, par exemple, en une heure.
D'accord.
Donc, je suis à peu près à 62, 63, quoi. Et donc, on peut calculer combien de temps je vais passer sur la lecture et calculer pour que ça fasse du temps de travail, quoi. Mais voilà.
Okay.
Ça, c'est nouveau. J'ai découvert ça avec l'agence. Mais en vrai, oui, c'est à prendre en compte quand même. Même si ça m'amuse beaucoup.
Donc tu as dit justement que maintenant tu étais dans une agence de... C'est une agence de
communication.
De communication, ouais. Ok, et que du coup, donc ils gèrent pour toi la partie mail, partenariat, etc. Est-ce qu'il te reste un aspect qui est assez contraignant pour toi dans la création de contenu, ou elle gère ça pour toi maintenant avec tout ce qui est mail, etc.
Il y a quand même des choses que je prends en charge. Par exemple, les accueils de classe où je vais intervenir dans des classes, ça, c'est moi qui gère tout seul parce que l'agence prend 30% de mes partenariats. Et comme quand j'avais dans une classe, c'est avec la charte des auteurs souvent, donc c'est rémunéré à hauteur de 300 euros, c'est 250-300 quoi, pour une demi-journée. À chaque fois, mon agente, elle me dit non, vas-y, je fais toute seule parce que si je te prends 30% et qu'en plus il y a les 23% de l'URSSAF, bah, tu gagnes plus rien sur ce que tu fais, quoi. Donc ça, je continue à le faire toute seule. Mais pour les gros partenariats, genre pour Light Lark de Alex Astor, le tome 1, là, ça, j'ai tout laissé gérer. Et moi, j'ai juste, elle me dit, tu dois faire une vidéo à cette date-là, tu me l'envoies. Et elle va gérer tout derrière, elle va renvoyer la vidéo et tout ça. Donc ça m'allège beaucoup. C'est une contrainte de faire la vidéo, mais j'aime bien le partager. Et puis c'est un livre que j'ai adoré, par exemple. Donc voilà. Après, j'ai pu faire une chasse aux livres où, pareil, elles organisent tout. Donc elles font les énigmes, elles placent, enfin, elles me disent où placer les choses, elles font la communication, etc. Et moi, j'ai juste à poster les photos pendant l'événement, à faire un vlog. Donc pas trop de contraintes là. Franchement, elles m'ont retiré pas mal de choses. La seule contrainte, ça pourrait être qu'elles prennent 30%, mais c'est logique, oui, puisqu'elles travaillent aussi, donc faut bien les rémunérer. Mais je considère que c'est pas une contrainte, sachant que moi, je faisais tout toute seule et qu'au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi.
Ça te libère quand même, ouais, du temps et puis de la charge mentale aussi, ouais, puis au niveau des papiers, tout ça.
Ouais, ouais.
Je pensais à ça. Lorsque, avec un partenariat, tu reçois un livre et qu'au final, tu es un peu déçu, comment est-ce que tu gères ça, justement? Est-ce que tu dis que t'as vraiment été déçu ou enfin, tu vas pas dire oh, j'ai adoré alors que non, quoi, je le sais bien,
oui,
mais
oui. Alors quand je suis pas rémunérée, parfois je poste juste pas la chronique,
d'accord,
oui. Je dis en story que c'était pas ouf, mais je le poste pas parce que j'ai pas envie de détruire le livre, et comme c'est assez subjectif, voilà,
oui, puis ça reste un auteur qui a écrit, qui a pris du temps, etc.
Donc moi j'ai pas la volonté de poster des avis négatifs. Donc c'est souvent la remarque qu'on fait d'ailleurs, que je poste que des trucs positifs, donc j'aime tout ce que je lis. Mais non, juste je le mets pas en avant, ce que j'aime pas, quoi. Et quand c'est rémunéré, je dis que si j'aime pas, en fait on annule tout, quoi. Je vais pas faire une chronique pour dire que j'ai pas aimé. Après, il y a des maisons d'édition qui acceptent aussi que je puisse faire une chronique mitigée. Bon, évidemment, si c'est vraiment très très naze et que j'ai vraiment pas aimé, je vais clairement pas le faire. Mais il y a des maisons d'édition qui disent, tu dis ton avis honnête sur le roman, quoi. Mais ça arrive rarement quand même. Mais voilà, j'abandonne, je laisse passer. Mais ça m'est jamais arrivé encore de lire un roman rémunéré qui m'a vraiment pas plu. Ça m'est pas arrivé.
On revient sur quelque chose d'un peu plus positif. Quel est ton aspect favori de la création de contenu ?
Rencontrer la communauté, c'est vraiment aller dans des salons, voir qui se cache derrière l'écran, rencontrer les élèves qui ne me connaissent pas aussi, et leur expliquer ce que c'est d'être créatrice de contenu, et puis bah, partager la lecture et avoir les retours des lecteurs qui disent qu'ils ont adoré ce que je leur ai recommandé aussi, ça c'est trop bien en fait. Voilà, c'est ce que je préfère. Et puis recevoir des livres gratuitement. Parce que un livre à 25 €, oui, ça fait quand même plaisir de le recevoir et de pouvoir le chroniquer et d'avoir quand même une petite reconnaissance pour son travail. Même si le gifting, c'est pas le meilleur moyen de rémunération. Mais bon, les maisons d'édition ont un peu de mal avec ça, donc j'accepte.
Est-ce que tu as une routine pour, par exemple, le montage? Je ne sais pas si tu as beaucoup de montage ou pas. Ou est-ce que tu as un planning où tu te dis, bah, là, tel jour, je fais 3 vidéos sur telle plateforme ou sur une autre plateforme? Enfin, est-ce que tu as un emploi du temps qui est quand même assez bien réglé ou c'est au feeling?
J'essaye d'avoir un emploi du temps, mais ça finit souvent au feeling. C'est que, alors ça dépend parce que je gère aussi la communication pour le salon Grimloire à Zell Rideau. Et là, j'ai un planning où il faut que je poste à des dates précises parce qu'on est plusieurs dessus, donc il ne faut pas qu'on se marche les unes sur les autres. Mais pour l'actrice à plein temps, je poste un peu n'importe quand je veux. Évidemment, je ne vais pas poster 2 ou 3 posts dans la même journée. Je vais essayer de les programmer et de les faire un peu en décalé. Mais quand j'ai une idée, je prends une photo ou je tourne et c'est parti. Et pour le montage, généralement, je monte juste après avoir filmé. Comme ça, c'est prêt. Mais j'ai pas de temps. Quand il y avait la fac avec l'emploi du temps, c'était un peu plus compliqué. Donc, il y a des fois où j'avais un trou de 3 heures. Et ben, je rentrais ici pour vraiment consacrer à la création de contenu. Ensuite, je retournais en cours. Et comme ça, j'avais tout, par exemple, pour la semaine. Et sinon, je me laisse un jour dans la semaine où je filme plein de trucs, où je fais plein de photos. Et après, au fur et à mesure des jours, j'utilise les photos pour poster, pour faire mes montages, et j'étale comme ça. Mais comme c'est un peu mon quotidien et ma vie depuis que j'ai 14 ans, c'est naturel pour moi de pas avoir de programme. C'est juste ma vie, c'est juste moi, quoi. Parce que je le faisais par passion et juste parce que c'est mon passe-temps favori, quoi. Donc maintenant que c'est professionnel, j'ai pas tant changé que ça, finalement. Voilà.
Est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça te prend par semaine ou par mois ou pas du tout, t'en as aucune
Mais
idée?
pas du tout. Mais j'ai souvent cette question et à chaque fois je leur dis, mais c'est bah, tout le temps quoi. Juste là, je peux lire dans le tram, je peux lire dans ma chambre, je peux lire en amphi à la fac parce que le cours il passe pas. Enfin voilà, je lis partout et du coup je peux prendre des photos partout et je peux poster quand je veux, n'importe quand, à n'importe quelle heure. C'est vraiment, je sais pas combien de temps je passe dessus, mais sûrement beaucoup. Mais j'aime aussi, moi, consommer Instagram avec les recommandations livresques. Donc finalement, je le ferais même si c'était pas professionnel. Donc je sais pas si je dois le compter dans mon temps de travail ou pas. Enfin voilà. Mais généralement, par jour, déjà, je regarde au moins 1 heure mes mails et ce que je pourrais faire pendant la semaine. Mais 1 heure par jour, c'est juste vraiment où je suis vraiment très focus sur ça.
Oui.
Et sinon, tout le reste, bah, c'est naturel.
Et est-ce que tu aimerais continuer sur cette lancée, du coup, vu que tu vas partir en master, tu aimerais continuer à fonctionner comme ça, avec la même agence de communication, tout ça, ou il y a des choses
Bah.
qui vont changer, tu sais pas exactement?
Alors, l'agence de communication, là, j'ai signé pour 1 an,
Ok.
qui peut être renouvelable et tout ça. Donc, je pense que je vais la garder, parce qu'en master, c'est quand même beaucoup de travail, et ça me permet de décharger un petit peu. Je voudrais continuer les réseaux sociaux, ça c'est sûr. De toute façon, je suis même pas, je pense pas capable de m'arrêter, parce que c'est trop un truc que j'adore faire.
Puis c'est rentré dans ta vie maintenant,
Bah, c'est
donc
ça, ouais, c'est moi, quoi. Lectrice à plein temps et Pauline ont fusionné. Et si j'ai pas assez de temps, bah, je le ferai un peu moins ou j'aurai moins de partenariats rémunérés. Mais je pense que je continuerai pour les services de presse et à partager juste par passion. Et puis bah, je vais me professionnaliser dans le milieu de l'édition, en maison d'édition, j'espère, on croise les doigts.
grâce à ton master.
Et grâce à mon master, ouais, parce que j'ai des stages que je vais devoir faire. Et en master 2, j'ai un stage de 6 mois en maison d'édition. Ou en communication, mais bon, j'aimerais travailler dans une maison d'édition jeunesse où je pourrais potentiellement faire de l'événementiel, de la communication, ou sinon pouvoir être aux côtés de l'assistante éditoriale, assistant éditorial, ça dépend. Bon, c'est souvent des femmes dans le milieu de l'édition, mais ouais, me professionnaliser là-dedans, même si c'est très bouché, j'espère avoir une place et me faufiler. Et continuer du coup à pouvoir vraiment faire ça avec un salaire fixe, avec une entreprise fixe, et pas juste aller là où le vent me mène, quoi.
Eh bien écoute, on croise les doigts pour toi. Et puis en plus de ça, tu aimerais partir un peu plus sur la littérature jeunesse, non? Ce
Ouais,
dont tu parles déjà
littérature
sur tes réseaux
jeunesse.
sociaux.
Ouais,
Donc
young adulte et jeunesse. Là, il y a plein de branches qui s'ouvrent au fur et à mesure. Là, Gallimard a lancé sa branche. Enfin, il y a tellement de choses qui arrivent. On pense que les jeunes ne lisent plus, mais c'est pas vrai.
Donc tu aimerais te professionnaliser vers le milieu de l'édition. Comment est-ce que tu vois justement l'avenir du marché du livre, en particulier avec les réseaux sociaux?
Il y a beaucoup de choses qui ont changé, puisque aujourd'hui on voit l'impact réel de l'influence sur les réseaux sociaux avec le BookTok surtout. On voit en librairie les stickers vus sur BookTok.
Oui.
On a dans les romans maintenant les avis des chroniqueuses, chroniqueurs littéraires. Donc c'est ça a un impact sur les ventes. Il y a des livres qui ont été édités il y a 15 ans qui là reviennent à la mode grâce aux réseaux sociaux et qui sont du coup republiés, même en édition collector pour certains. Enfin, il y a un vrai engouement là-dessus. À l'avenir, je pense que TikTok va s'épuiser assez rapidement, puisqu'on voit déjà un changement sur le BookTok qui... TikTok, c'est trop chronophage, c'est trop les trucs où on veut du choquant pour pas grand-chose. Ils mettent plus autant en avant BookTok qu'avant, l'algorithme est moins bien, la rémunération aussi, elle baisse là de jour en jour. Donc à voir. Bookstagram, je sais pas. Il y a une recrudescence de YouTube en ce moment quand même. Je posais la question.
Alors que YouTube avait baissé un petit peu, donc
Ouais,
pour TikTok justement.
exactement, ouais. Et là, on reprend les formats longs de vidéos, et donc YouTube revient. J'en ai parlé aux jeunes la dernière fois en classe, et ils m'ont dit, ouais, on regarde vraiment YouTube, donc ça s'épuise pas tant. J'imagine qu'il va y avoir un nouveau réseau social d'ici 5 ou 6 ans qui va arriver comme TikTok l'a fait, hein, et que ça va relancer le truc avec une nouvelle plateforme où on pourra parler littérature dessus. Mais je pense pas que ça s'épuise parce que c'est tellement grand maintenant. Et puis même la lecture numérique avec Wattpad, avec Webtoon, ça prend une place tellement grande aussi. Donc bon, je pense qu'il y a de l'avenir dedans.
Est-ce que toi, justement, tu ressens un impact sur les habitudes de lecture de tes abonnés lorsque tu publies un nouvel avis sur un livre ou un roman?
Alors parfois on m'envoie des petites photos pour me dire qu'ils ont acheté le bouquin ou qu'ils sont en train de le lire, ou je reçois des ah bah j'espère que tu vas aimer parce que moi j'ai vraiment adoré, ou au contraire quand je les reçois en avant-première ils n'ont pas le temps de les lire encore forcément, et donc ils me disent ah bah j'ai trop hâte de voir ton avis justement parce que j'ai trop envie de l'acheter, donc ça impacte sûrement leur consommation, oui. Après je le vois pas tant puisque je les rencontre pas assez souvent, où il faut vraiment que je leur pose la question en story pour savoir. Mais je sais que ça a un impact, et puis pas que moi, il y a plein d'autres bookstagrammeuses qui le font, qui ont des stories à la une dédiées justement aux stories où on les identifie parce qu'ils ont acheté, parce que les lecteurs ont acheté un roman grâce à elles. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de gens qui regardent plein d'avis avant d'acheter un bouquin justement pour être sûr d'aimer, pour être
Oui.
sûr que ça leur correspondra. Enfin
Puis il y
voilà.
a aussi le budget des gens au niveau des plaisirs qui doit aussi être un peu restreint, donc il faut vraiment qu'ils
Carrément.
soient sûrs de ce qu'ils veulent.
Ah bah là, les romans, ils coûtent tellement, tellement cher. Enfin bon, c'est un peu la catastrophe pour la lecture, mais en même temps, avec toutes les guerres et tout, bah, ils peuvent pas
Oui.
juste garder le même prix, sinon ça va couler, quoi.
Oui, clairement. Justement, comment est-ce que tu arrives à gérer le lien parasocial avec tes abonnés? Tu les rencontres, enfin, t'as dit aussi que t'allais en classe
Ouais.
souvent.
Alors en classe, les élèves, généralement, ils me suivent pas parce qu'ils sont jeunes et normalement,
Oui.
ils n'ont pas de réseaux sociaux à 11 ans, normalement.
Normalement.
Voilà. Et après, les profs, parfois, elles parlent de mon Instagram avant mon intervention, pour les lycéens surtout, et ils peuvent me suivre, mais c'est pas des abonnés qui sont là depuis plusieurs années, quoi.
Oui.
Et sinon, je les rencontre pendant les salons, le salon de Montreuil à Paris, le Festival du Livre de Paris, enfin, il y a plein de choses. Et sinon, je les croise par hasard dans la rue ou quand je me promène à Paris, j'en croisais pas mal. À Tours, j'en ai déjà croisé aussi quelques-uns. Enfin, et là, ouais, je peux leur parler. Sinon, j'essaye de répondre à tous mes DM Instagram. Vraiment, j'essaye de répondre à tout le monde, à toutes les questions. Et ça permet aussi d'entretenir le lien finalement. Voilà, on me dit que je réponds hyper vite et que je suis au taquet, contrairement à d'autres influenceuses.
Ça
Donc
doit
bon.
prendre énormément de temps en même temps.
Ouais,
Temps
ouais.
de répondre à tout le monde, ça doit être.
Bah juste quand je vois une notification, je l'ouvre et je réponds quoi. Et voilà. Et après on peut partir dans une conversation ou pas. Et voilà. Bon, évidemment si les gens ils m'envoient un emoji, parfois je réponds pas, mais parce que je sais
Oui.
pas trop quoi répondre. Mais quand c'est une question ou un truc pertinent et tout, évidemment que je réponds. Et c'est entretenir le lien.
D'ailleurs, la tranche d'âge de tes abonnés est. Enfin, est-ce que tu as accès à ça et
Ouais.
aussi d'où est-ce qu'ils viennent en France ou pas du tout?
Alors j'ai accès à ça, c'est les 17-25 ans, en majorité de Paris,
Ok.
selon les pourcentages. Après je sais
L'endroit
pas,
que tu as fui.
ouais, mais après je sais pas trop comment ça se base les statistiques sur le lieu, parce que moi tu vois j'ai jamais rentré où est-ce que j'habitais quand je me suis inscrite sur Instagram. Après je pense que c'est pisté et tout dans les
Oui, avec
données,
l'adresse IP et tout
ouais.
ça.
Donc je sais pas trop, mais c'est surtout des gens en France. J'ai quelques personnes au Maroc et en Algérie. J'ai pas trop de Canadiens finalement. Et sinon Suisse-Belgique, hein, en force, hein, mais évidemment. Puisqu'on entretient quand même le Bookstagram, on entretient quand même beaucoup de liens avec la Suisse et la Belgique, puisqu'il y a des salons qui se passent dans les deux pays et que c'est juste à côté. Donc
Oui.
voilà. Mais ouais, 17-25 ans. Après, évidemment, les plus jeunes, parfois on peut pas forcément voir. Hein, mais je sais qu'ils sont très présents. C'est, je crois que c'est 13, 13-18, un truc comme ça. Mais on peut pas savoir vraiment leur âge s'ils s'inscrivent avant quoi. Voilà.
Donc là, on a parlé de tes abonnés. Est-ce
Et des
que...
femmes. C'est pratiquement que des femmes.
Ah, pratiquement que des
Ouais,
femmes?
c'est 86% de femmes
Même
sur.
parmi les plus jeunes,
Ouais,
ok.
et même en moment, ça a frôlé, je crois, c'était genre 91% de femmes sur Instagram. C'est énorme, j'ai pas beaucoup d'hommes du tout.
Justement, la prochaine question, j'allais te parler des autres influenceurs avec qui tu as pu partager et si tu étais devenue amie avec ou pas. Est-ce que tu as remarqué cette tendance-là aussi chez Zen? Du coup, ça doit être un peu plus des
Ouais,
femmes
c'est.
souvent, ouais.
Ouais. Bah, j'ai. En amis garçons, il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont sur le Bookstagram. Là, tu vois, j'en ai 3, 4 en tête. Ah, 5. Mais bon, voilà, 5 sur des centaines de femmes, quoi. Donc, l'impact, tu veux dire, de la communauté et de la tranche d'âge ou l'impact.
Non, non, justement, c'était par
Ok.
rapport au genre de la personne,
Ok,
enfin
ok.
des abonnés en général.
Parce que quand c'est des garçons, même eux, ils ont plus de femmes
Ok,
qui
oui.
les suivent. Et parfois, ils sont un peu trop mis en avant aussi, justement parce que c'est des hommes. Et j'en parlais la dernière fois avec un pote, et il me disait, en fait, parfois, les meufs, elles nous suivent juste parce qu'on est des mecs et qu'on lit, quoi. Et en fait, mon contenu, il se base pas que sur le fait que je sois un garçon. C'est aussi, il faut regarder ce que je publie. Donc bon, ils sont plus facilement mis en avant parce qu'il y en a moins aussi. Mais dans les communautés de mes copines bookstagrammeuses, c'est pareil, c'est que des filles. Ouais, très féminin. Même pendant les soirées, hein, c'est presque que des meufs, quoi. Enfin, vraiment, les seuls mecs qui sont là, c'est soit parce qu'ils travaillent dans mon édition, soit parce que c'est les patrons de maison d'édition, quoi. Voilà. C'est triste.
Oui, donc tu as quand même pu te faire des amis parmi les autres influenceurs, tout
Ouais, ouais,
ça.
ouais.
Oui, donc en plus tu as des gens avec qui en parler, c'est
Oui.
sympa
Ah
quoi.
bah ça, mais de toute façon, hyper rapidement, on peut se faire des copains sur Bookstagram, puisqu'on se rencontre, on aime les mêmes choses. Enfin, très vite, on fait partie du même cercle social. Là, mercredi, je vais à Paris pour la remise des prix Babelio. Je sais déjà vraiment qui y aura, puisque tous les ans, on y va, et tous les ans, c'est globalement les mêmes personnes. Et donc, on se revoit, on fait des choses ensemble. Enfin, c'est vachement bien, quoi.
Donc là, tu as parlé justement de la remise des prix Babelio à Paris. Tu m'as dit mercredi, c'est ça?
Mercredi soir,
Mercredi,
ouais.
ouais, ok. Et dans quel événement on peut te rencontrer prochainement?
Et ben, à part la remise des prix, il y a la Japan Tour qui arrive et je vais avoir un petit stand.
Donc fin juin, le dernier week-end
Ouais,
de
c'est
juin.
le 29 juin.
Ok.
Et j'y serai le dimanche. Et donc là, j'ai une séance de dédicace. Ensuite, j'ai une scène où je vais parler sur le Streamlab des réseaux sociaux, de la lecture. J'ai aussi une scène avec un chef où je vais faire des gyoza. Voilà, ça c'est le prochain événement que je vais faire. Et sinon, j'en ai pas d'autres après la Japan, puisque comme je déménage à Angers, je peux pas vraiment m'engager sur certaines choses. Et sinon, à Grimloire, le 11 et 12 octobre 2025, là j'y suis puisque j'étais la marraine l'année dernière, mais je gère toujours la communication cette année. Donc j'y serai pour prendre des photos, pour être présente.
Pour finir cette interview, est-ce que tu as un meilleur souvenir à nous faire partager en lien avec ton métier d'influenceuse?
Moi, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est toujours les rencontres avec les auteurs qui peuvent être hyper passionnants. En fait, on a envie de leur parler pendant des heures, quoi. Mais mes premiers souvenirs, c'est les premières fois où j'ai été invitée à des événements littéraires. Et je pense notamment à Pocket Jeunesse dans les locaux d'Editis pour la sortie d'un livre qui s'appelle Dina. Où c'était du coup sur Just Dance, parce que c'était la personne qui a, je crois, la Coupe du Monde de Just Dance. Et donc, on dansait dans les locaux d'Editis, il y avait le bar, c'était hyper ouvert. Et pour la première fois, je me suis dit, mais je rentre dans une véritable grosse maison d'édition. Bon, détenue par un milliardaire complètement fou, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, je me dis, waouh, là, je vais vraiment pouvoir commencer à me professionnaliser. Et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que j'étais avec toutes mes copines de Bookstagram, on a dansé et tout, c'était trop sympa quoi. Et on a mangé un gâteau, enfin bon, bref. Et c'était pendant que j'habitais à Paris, donc c'était un peu la liberté aussi des événements et la folie des partenaires rémunérés par-ci par-là quoi. Enfin vraiment, c'était trop marrant, j'étais complètement détendue et complètement dans mon élément. Et je me suis dit là, je vais faire ça tout le temps quoi. Et j'avais 19 ans. Voilà.
C'était la folie.
Vraiment, c'était trop bien.
Eh bien écoute, Pauline, merci beaucoup pour cette interview. C'était hyper agréable de te recevoir et puis tes réponses étaient hyper intéressantes.
Bah, merci à toi.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!